En assurez-vous ? En assurons-nous ? En assurez-moi ?
Sur RDOA 101.7 et 107.5 dans les studios de Di, je suis avec Liliane aujourd'hui pour un nouvel épisode d'En Naturez-vous. Bonjour Liliane. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui je vais parler des papillons. Alors tout le monde connaît les papillons bien sûr, mais il y a des tas de petites choses.
Les papillons, il y a beaucoup. Et ils ont non seulement des couleurs différentes, des tailles différentes, mais ils ont aussi des mœurs différentes. Ils ont des façons de se reproduire qui sont toujours différents les uns des autres. Et ça, c'est passionnant quand on met un peu le nez dedans. Je ne sais pas, aujourd'hui j'avais envie de détailler surtout un petit azuré, mais qui s'appelle la petite azurée, parce que vous l'avez déjà vu, c'est un tout petit papillon, le plus petit peut-être. Il est bleu, il est d'un beau bleu, et avec, sur le bord, il y a du marron et du noir, il est très joli. Il est amusant parce qu'il s'appelle, selon la plante où il se reproduit, l'azurée du thym, l'azurée du serpolet, l'azurée, etc., etc., selon l'endroit où il se reproduit. Mais avant de vous parler de cette particularité, je voudrais quand même vous rappeler que le papillon, il passe par trois étapes de sa vie. C'est quelque chose d'assez particulier, la métamorphose complète. Hein. Parce qu'après l'accouplement, la femelle, elle pond des œufs sur un groupe de végétaux. Et il y a des papillons qui ne peuvent pondre que sur un seul végétal. C'est-à-dire, par exemple, on a la petite tortue qu'on appelle, qui est un papillon qu'on voit assez facilement, qui est marron et joli d'ailleurs. Et lui, il ne va pondre que sur les orties. Et les chenilles ne mangent que les orties. Et s'il n'y a pas d'orties, il n'y a pas de papillon. Voilà. Et il y a beaucoup de papillons qui sont comme ça. La dernière fois, je vous ai parlé du plantain, par exemple. Il y a une petite chenille qui ne vit que pour le plantain. S'il n'y a pas de plantain, il n'y a pas cette chenille. Voilà. Ça, c'est assez particulier quand même. Donc, notre petite chenille, elle va pondre sur cette plante. Ça va faire des œufs, ils vont éclore. Et les larves, la chenille, elle va passer l'essentiel de son temps là à manger et à grossir. Il lui faut 5 mues pour arriver à sa taille normale. Et pendant ce temps, la mue est absorbée par les enzymes. Elle mange, elle ne tombe pas, elle les mange de façon à grossir encore plus. C'est assez amusant quand même comme système. Donc en général, 4 à 5 mues sont nécessaires pour que la chenille arrive à sa taille normale. Si on la regarde bien, quand on la voit marcher, on a l'impression qu'elle a plein de petites pattes. En réalité, non. Elle n'en a que 3 à l'avant qui vraiment la font avancer. Et à l'arrière, il y a 5 petites pattes qui ne servent à rien. Elle ne marche pas avec. Ça a l'air comme ça, mais non, c'est du faux. Pourquoi ça ? J'en sais rien.
C'est juste pour compléter le côté corporel.
Voilà, ça fait joli, mais elles ne s'en servent pas. Elles ne peuvent pas s'en servir, ça ne marche pas. Voilà. Alors, les petites chenilles, bien sûr, quand elles sont comme ça sur leur plante, elles sont très vulnérables pour un prédateur. C'est l'occasion. Alors, elles ont des tas de choses pour se défendre. Elles mettent du poil, par exemple, des gros poils sur le dos. Ça rebute les oiseaux. Voilà. Elles se camouflent aussi. Il y a des chenilles, on ne les voit pas. Elles sont la couleur de la plante sur laquelle elles sont. Et il y en a d'autres, au contraire, elles mettent beaucoup, beaucoup de couleurs pour effrayer, pour dire « je suis toxique, ne me mangez pas ». Sans de se protéger des prédateurs. Quand elle atteint le poids final, où il faut qu'elle arrive, elle cesse de manger. Et à ce moment-là, elle se met dans un cocon. Voilà. Ce cocon, il peut durer plus ou moins. Alors, il y en a certaines qui durent 8 jours, et il y en a qui vont jusqu'à 8 ans. Ça paraît incroyable. 8 ans dans ce cocon. Encore faut-il qu'elle ne soit pas dérangée. Hein. À ce moment-là, bien sûr, le cocon s'ouvre et le petit papillon y s'envole. Oui, il y a des records des fois. Par exemple, en hibernant au stade adulte, le citron qu'on appelle, c'est un joli papillon qu'on voit, surtout beaucoup au printemps, il est jaune, mais vraiment jaune citron. Dès qu'il fait beau, boum, on le voit s'envoler, il aime tout de suite, il se réchauffe, parce que c'est un papillon qui hiberne dans un hangar, dans une faille de la maison, enfin voilà, tout ça. Et dès qu'il fait un petit peu de chaleur, whoop, il sort tout de suite et hop, il se remet dans sa petite faille pour avoir chaud. Et je disais donc qu'il battait des records parce qu'il peut vivre jusqu'à 12 mois. C'est vrai que les papillons, en général, ne vivent pas longtemps. Celui-ci, il vit jusqu'à 12 mois, donc il hiberne. Il y a aussi des papillons qui s'envolent vers les pays lointains. Ils émigrent.
C'est vrai que dans l'idée, il y a beaucoup de personnes qui se disent que globalement, un papillon ne vit qu'une journée.
Eh oui.
Et au final, en fait, tout dépend des espèces.
Exactement.
On a des papillons qui peuvent perdurer bien plus longtemps.
Exactement. Voilà. C'est ça l'intérêt du papillon, c'est que vraiment, il n'y a pas de généralité. Ils sont tous très différents les uns des autres. Je rappelle bien sûr que les papillons, ce sont des insectes. Leur corps est donc composé de trois parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils respirent par l'abdomen. Il y a plein de petits trous. Et c'est par là qu'il respire. Les ailes, quand ça vous est déjà arrivé, si vous avez pris un papillon, vous avez vu de la poudre sur les mains. Et ça, alors, il ne faut surtout pas le faire, parce que là, ça condamne le papillon. Parce qu'en fait, ce sont ces ailes que vous avez sur les mains. C'est une poudre dans l'écaille. Et cette petite poudre, c'est minuscule, mais ce sont ces ailes, ce sont ces poudres. Et il ne peut plus voler après. Hein. Vous le condamnez si vous le prenez dans vos mains.
Avec un seul toucher ?
Oui. Absolument, un toit touché. C'est très fragile, très très fragile. Ça vous reste dans les mains. Alors je vais maintenant vous parler de mon petit chouchou, l'azuré. Voilà. Alors lui, il a vraiment une particularité. La femelle, après l'accouplement, elle pond. Et mettons qu'elle ponde sur du thym, par exemple. Bien. Les petits œufs, ils vont s'ouvrir. Et ils vont donner des petites chenilles. Les petites chenilles vont se nourrir du thym. Et au bout d'un moment, elles vont grossir. Et elles ne peuvent pas marcher, celles-là. Elles ne savent pas marcher. Alors, elles se laissent tomber par terre. Et là, elles prennent une couleur blanc-rosé. Elles émettent des petits sons pour avertir les fourmis. Et elles font du mielat. Et les fourmis, elles croient que ce sont des larves en danger. Alors elles les prennent, elles les ramènent chez elles, dans la fourmilière. Et elles les élèvent comme les larves de leur reine. Alors en revanche, la chenille se nourrit avec des larves de fourmis. Mais en revanche, elle fournit quand même du mielat aux fourmis. Donc il y a un petit échange. Et puis, tout doucement, elle grossit et puis elle devient, évidemment, elle se met dans son cocon. Et les fourmis continuent à s'en occuper comme si c'était des œufs de leur reine. Le problème, c'est que lorsque le cocon arrive à maturité et que le papillon doit sortir, c'est là le danger. D'ailleurs, ça ne réussit qu'à 85% en général. Parce que si les fourmis s'aperçoivent qu'il y a un papillon dans leur... dans leur fourmilière, elles se jettent dessus pour évidemment le tuer. Donc il faut qu'il fasse très 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 vite, très très vite pour sortir. Et à ce moment-là, bien sûr, il se met sur son brin d'herbe et au soleil, il se sèche, si toutefois un prédateur ne vient pas le manger. Voilà, c'est quand même assez particulier.
Oui, j'imagine. L'espérance du papillon, l'espérance de vie se joue sur beaucoup de choses, en fait, au final.
Ah oui, absolument. Puis c'est formidable, parce que s'il n'y a pas cette plante, il n'y a pas de papillon. Alors, c'est surtout dans les landes sèches, un peu. Hein. Voilà. Le thym, choses comme ça, la lavande, éventuellement. Non, je ne même pas la lavande. Elle n'est pas hôtesse de lavande. Non, elle accueille beaucoup d'abeilles, mais pas vraiment de papillons. Voilà pour mes papillons. Alors, il y en a plusieurs aussi qui ont des particularités, hein, vraiment un peu singulières, comme le sphinx tête de mort, qui est un gros papillon, vous savez, avec cette tête de mort là, sur le dos. Lui, il est migrateur et il se nourrit pas de nectar. Mais alors, il pénètre dans les ruches et avec sa trompe, il va manger le miel par le, dans les alvéoles de la ruche. Et curieusement, les abeilles ne disent rien. Elles le laissent faire. Et se nourrit de ça. Voilà. Et puis, il a aussi une autre particularité. Il émet des sons aigus en expirant de l'air par sa trompe lorsqu'il est dérangé ou stressé. Se fait un peu comme un trait de souris.
Est-ce que c'est un des seuls papillons qui a la particularité justement d'émettre des bruits, ou est-ce que les papillons en soi le font, c'est juste que c'est inaudible pour nous?
En général, ils ne disent rien du tout, les papillons. Hein, c'est vraiment particulier. Il y a aussi le cygne du liseron. Alors celui-là, il est migrateur aussi. Il possède des capacités de vol impressionnantes. Il parcourt des centaines de kilomètres à une vitesse moyenne de 50 km/h, mon petit papillon, pouvant même dépasser les 100 km/h sur des courtes distances. On n'a pas l'impression. Hein. Ainsi, en quittant l'Afrique en avril, les premiers migrateurs atteignent la France dès le mois de mai. Incroyable, ces petites bêtes. Hein. C'est tout petit, hein, on ne se dirait pas. Encore une petite particularité, où il y avait le moreau sphinx. Le moreau sphinx, je ne sais pas si vous avez déjà vu, un petit papillon, on dirait un insecte tout petit, là, enfin, c'est un état, comme une petite abeille un peu. Il est petit, il a une très longue trompe, comme les colibris, là. Et il pique dans les fleurs. Oui, d'ailleurs, on l'appelle souvent le sphinx colibri. Il a un vol stationnaire et il développe une très grande trompe qui va aller, hop, dans la fleur. Il fait penser à un oiseau mouche. Il est migrateur également. Il remonte chaque année du Maghreb et de l'Europe méditerranéenne où il hiverne vers le nord de l'Europe où il passera l'été. Et là, bon, bah, depuis quelques années, il arrive que certains individus nés sous nos latitudes restent hivernés sur place. C'est sûrement en relation avec le réchauffement climatique. Il y a encore le papillon, le petit papillon de nuit. Les femelles, c'est curieux parce que les femelles sont nocturnes alors que les mâles sont vus en journée. Ça, c'est quand même assez curieux. Et grâce à leurs antennes en peigne, comme des petites dents, les mâles sont capables de percevoir les phéromones émis par les femelles jusqu'à plusieurs kilomètres. Et comme beaucoup de papillons de nuit, les adultes ont la particularité d'être dépourvus de pièces buccales, les empêchant de s'alimenter. Ce qui rend évidemment leur vie éphémère. Il y a plusieurs papillons comme ça. Ils se nourrissent quand ils sont chenilles. Et dès qu'ils sont papillons, ils ne se nourrissent plus du tout. Donc ceux-là sont très éphémères parce qu'évidemment, bah, comme ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne durent pas longtemps. Et donc ils s'accouplent et ils meurent. Et ils pondent pour la femelle, bien sûr, avant. Et puis enfin, je vous parlerai de la sylvaine, c'est un petit papillon qu'on voit beaucoup moins chez nous, qui est orange. Et lui, alors, pour hiverner, il se confectionne un abri en maintenant des feuilles pliées et qu'il coud avec un fil. Il reste là-dedans pendant tout l'hiver jusqu'au printemps. Voilà. Voilà, je vous ai parlé des particularités des petits papillons.
Merci beaucoup, Liliane, de nous avoir parlé des papillons dans le studio de Luc Andioua. On l'apprend souvent qu'on s'intéresse justement à la nature comme vous le faites, que tout est extrêmement lié dans la nature, les choses les unes avec les autres. Là, vous avez parlé justement du besoin de certains papillons, de certaines plantes, justement, enfin pour les chenilles en tout cas. Est-ce qu'il pourrait avoir un potentiel danger par l'extinction de certaines plantes ou par le réchauffement climatique, justement, le fait qu'il y en ait qui ne poussent plus selon les bonnes saisons?
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, l'azurée, dont je parlais tout à l'heure, il y a des endroits où il est vraiment en danger. Dans le Limousin, par exemple, il n'y en a presque plus. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a quand même encore des fourmis, par contre. La fourmi en question, mais il n'y a plus d'azurée parce que la plante là aussi disparaît. Oui, bien sûr.
Et le réchauffement climatique, du coup, peut avoir un impact.
Oui, sûrement, hein, sûrement. On ne peut pas encore vraiment calculer les choses, mais certainement, certainement, oui.
Est-ce que vous savez, vous, s'il y a peut-être des endroits où des personnes ont à vocation de protéger les espèces de papillons?
Oui, bien sûr, il y a des instituts même qui sont pour ça. Alors, je ne donnerai pas le nom parce que je ne l'ai pas retenu. Mais oui, bien sûr, au niveau national, d'ailleurs, il y a des gens qui sont chargés de calculer, de voir que, oui, à quel endroit il y en a, il n'y en a pas, etc. Oui.
Et pourquoi avoir choisi les papillons ? Enfin, qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, chez cet insecte-là ?
Je ne sais pas dire exactement. D'abord, on en a eu beaucoup cet été. Moi, mon jardin, cet été, était rempli de papillons. Et de toutes les couleurs, et c'est magnifique. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? À vrai dire, j'en sais trop rien.
Vous avez le droit de ne pas savoir et que ça vous plaît juste.
Oui, voilà.
Mais oui, ça aurait pu être un petit côté inspirant, justement, le fait que ça puisse voler, que ce soit éphémère, que ce soit aussi différent les uns des autres aussi, justement.
Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai aussi que c'est un intérêt parce que justement ils sont différents, oui, ça c'est vrai. Enfin, quand on se plonge dedans, les papillons de nuit par exemple sont très très intéressants. Ils sont même plus intéressants que ceux de jour. Il y a des choses fantastiques, mais il faudrait des heures et des heures et des heures pour en parler.
Je vois. Bon, on n'a pas des heures et des heures, mais après c'est vrai que c'est toujours intéressant de se rendre compte de... Bah justement, de toutes les variétés différentes qui peut avoir en papillon.
Oui.
Est-ce que vous savez depuis... Est-ce que c'est une espèce qui est là depuis toujours, en fait, sur la planète, ou est-ce que c'est venu...
Oh là, oui. On a retrouvé dans la résine des papillons, effectivement. Oui. Oui, c'est très, très vieux. Oui.
Bah, merci pour cette petite...
Petit conte.
Culture, bien sûr.
En nature et moi. Il était une fois un roi et un papillon. Si j'allais à la chasse aux papillons, pense le roi. Et il prend son filet à papillons. J'ai envie de voir un roi, pense le papillon. Et il prend son vol à la recherche d'un roi. Le roi s'avance dans la campagne. Sa couronne brille au soleil. Son œil brille à l'affût des papillons. « Un papillon !» s'écrie le roi en voyant le papillon, et il brandit son filet. « Un roi !» s'écrie le papillon en voyant briller la couronne, et rapide comme l'éclair, il se pose sur la couronne. « Mais où donc est passé le papillon ?» s'écrie le roi qui ne le voit ni le sent. « Mais où donc est passé le roi ?» s'écrie le papillon, à qui les longs cheveux du roi cachent la personne du roi comme l'arbre cache la forêt. « Je suis là !» dit le papillon en entendant la question du roi. « Je suis là !» dit le roi en entendant la question du papillon. « Où là ?» demande le roi. « Où là ?» demande le papillon. « Sur ta couronne, dit l'un. « Sous la couronne, dit l'autre. » Le papillon essaie de soulever la couronne pour voir le roi qui est dessous. Mais il n'y arrive pas, parce que la couronne est trop lourde et aussi parce qu'il est assis dessus. Essaie de soulever la chaise sur laquelle tu es assis. Le roi se met sur la pointe des pieds pour essayer de voir par-dessus sa couronne, mais il n'y arrive pas. Car au fur et à mesure qu'il se lève sur la pointe des pieds, sa couronne monte plus haut. « Pas moyen de te voir, dit le papillon. Pas moyen de te voir, dit de t'attraper avec mon filet, dit le roi. Tant mieux, dit le papillon qui ne veut pas être attrapé. Tant pis, dit le roi. » À ce moment, la couronne qui somnolait se réveille. Et sentant les six petites pattes du papillon, elle dit « Ça me chatouille !» « Qui parle ?» demande le roi. « C'est moi, ta couronne, » dit la couronne. « Parce que tu parles ?» s'écrie le roi stupéfait. « Tu parles ? Mais depuis que tu es sur ma tête, je t'ai jamais entendu parler. »« C'est la première fois que ça me chatouille, » dit la couronne. « La première fois dont il me vient l'envie de parler. »« Comment ?» s'écrie le roi. Ni le jour où on m'a couronné, ni le jour où j'ai épousé la reine, ni le jour où j'ai été décoré de la Légion d'honneur, ni le jour où j'ai triomphé de mon rival Valdemar, ni le jour de la victoire de Trapusphyre, ni tu n'as envie de parler aujourd'hui, ou rien du tout de papillon. Rien du tout de papillon, s'exclame le papillon. Et de colère, il trépigne de ses six petites pattes, ce qui chatouille et réjouit la couronne. Ça me chatouille, chatouille, dit la couronne. Être chatouillé, c'est bien plus amusant que la victoire de Trapusphyre, les avatars de Valdemar ou la Légion d'honneur. Le roi reste pensif un moment. On entend murmurer Trapusphyre, Valdemar, Aligonde. Ça, c'était le nom de la relaine. Tu as peut-être bien raison, dit le roi. J'essaie de me souvenir. La dernière fois qu'on m'a chatouillé, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et depuis, personne n'a jamais osé me chatouiller. Ça chatouille, attends, dit la couronne en tressautant. Être chatouillé, soupire le roi. Être chatouillé, s'écrie le roi. Être chatouillé, désire le roi. Et vite, 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 sans plus penser au papillon et à la couronne, il se précipite au palais et appelle la reine. Aligonde, chatouille-moi. Que je te chatouille, dit Aligonde. Mais qu'est-ce qui te prend? Et elle repart d'où elle est venue. Le roi appelle son premier ministre. Chatouille-moi. Pardon, fait le premier ministre qui était un peu sourd. Chatouille-moi, dit le roi très fort et en articulant bien avec un petit mouvement des doigts pour illustrer ses paroles. Hélas, le premier ministre avait appris l'arithmétique et la politique, l'éloquence et la stratégie, la diplomatie et la duplicité, mais depuis qu'il n'avait été ni chatouillé ni chatouilleur, et cela remontait à sa plus tendre enfance, il ne savait comment faire pour chatouiller le roi. Et s'il avait su, aurait-il osé? Frustré de chatouille, le roi est allé se coucher. Mais en rêve, il a eu plus de chatouille qu'il n'en pouvait supporter. Ah, si tu l'avais vu se trémousser, se tortiller, se bidonner! Au réveil, radieux, il a nommé un ministre du chatouillage, le sommant de créer immédiatement un institut supérieur pour la formation accélérée de chatouilleurs.
De qui est ce conte?
Je ne sais pas.
Très bien. Vous l'avez trouvé pendant vos recherches un petit peu sur le papillon, du coup?
Ouais, ouais, ouais.
Merci beaucoup pour ce petit récit.
Merci.
Une abeille, un jour de printemps, voletait gaiement. Sur la rose bruyère en fleurs, dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait: je vous aime. Mais l'abeille là-haut, tout là-haut, n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait, et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit. Mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons au petit papillon. Par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leurs ailes, ils butinent la rose et le thym dans l'air frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans la vie, quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours. On triomphe toujours.